pas comment elle a été écrite cette page. Bref, c'est comme ça, on va faire avec.
Mais c'est un bis. Mérite-t-il séance du conseil municipal en salle polyvalente le jeudi 4 avril 2024 à 20h33, enregistrement intégral et sans pause. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue au public. Et nous allons sans attendre commencer par l'appel nominal. Donc, Thomas Valérie présente, Vincent Traclet.
Présent.
Elisabeth Buonomo.
Présent.
Jean-Marc Viennot.
Présent.
Delphine Viennot.
Présent.
Angélique Pujat.
Présent.
Michel Arger.
Présent.
Catherine Ferron.
Présent.
Christian Julien.
Présent.
Victor Passarella. Absent. Patrice Auray.
Présent.
Estelle Grumet.
Présente.
Damaris Caropi.
Présent.
Lionel Gauthier, excusé et donne pouvoir à Michel Arger, qui l'accepte. Véronique Dost. Merci. Ensuite, le temps est venu de la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. À qui je vais remettre le registre. Est-ce qu'il y a des candidats, des candidates?
Il y a Christian.
Oui. Merci. Allez, Christian. On peut faire passer le registre à Christian.
Ah, tiens,
merci Christian.
Écrit.
De te porter candidat. Il l'est souvent à la CCNP, donc il a l'habitude. Commençons donc par l'approbation.
L'approbation du compte-rendu. Le dernier compte-rendu.
Ce n'est pas marqué. Ah si, c'est marqué. L'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 15 février 2024. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce compte-rendu? Alors, s'il n'y a pas de remarques, je le demande à votre approbation. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adoptées. Je vous remercie. Et donc, nous rentrons dans la partie finance avec l'approbation du compte de gestion 2023, du compte administratif, de l'affectation du résultat 2023. Alors, avant de faire toute cette partie administrative, si je puis dire, je voulais faire un petit rappel de tout ce qui s'est passé en 2023 pour bien se repréciser pourquoi on a dépensé des sous. Donc, dans les comptes qui vous sont, sur cette note de synthèse que je n'ai pas. Vous avez relevé, et nous en avions parlé à la Comfinance du 4 mars dernier, nous avons un déficit d'investissement. Alors, ce déficit s'explique par les recettes qui étaient prévues des ventes EPF, concernant le projet rue de l'Église et le projet rue du Canal. Les ventes devaient se faire en 2023, c'est pour ça que nous avions prévu cette somme en recettes, mais étant donné tous les décalages qui ont pu s'opérer, ces ventes ne se sont pas faites sur 2023 et elles devraient donc se faire sur 2024, ce qui explique le déficit qui est de exactement 92 637,58 et les recettes étaient d'environ 100 000 euros. Donc c'est pour cette raison que nous avons malheureusement ce déficit d'investissement. Concernant le fonctionnement, nous sommes à l'équilibre de 1780,06 euros. Expliquer le fonctionnement, nous avons eu beaucoup d'augmentations en ce qui concerne l'eau, l'électricité et le gaz. Là, nous avions vu en Comfinance que malheureusement, ce n'était pas la consommation, mais vraiment le coût de l'éclairage et du gaz qui avait énormément augmenté et donc qui nous avait pénalisé, puisqu'on a carrément doublé les montants de dépenses de ces postes. L'augmentation également du charge de personnel, pratiquement 13% entre les recrutements qui ont été faits et puis l'augmentation de points d'indice. C'était un gros poste cette année 2023. Il y a eu également les travaux à l'école suite aux dégâts de la tempête qu'il y avait eu sur la toiture, les plafonds, etc. Le classement des archives, ça c'est un gros travail que nous avons lancé puisque nos archives n'avaient pas été reprises depuis, je crois, 2014, à peu près 10 ans. Et donc c'est un gros travail qui est fait par le centre de gestion et c'est un gros chantier qui est lancé, qui n'est encore pas terminé. Et puis nous avons également en fonctionnement investi dans du matériel périscolaire. Hein, c'était pour remettre aussi un petit peu aux normes tout notre matériel suite à l'ouverture de l'ALSH, hein, l'accueil de loisirs sans hébergement. Donc il nous fallait non pas investir, mais acquérir un petit peu plus de matériel pour le bon fonctionnement du périscolaire. Donc ça, c'est pour la partie fonctionnement. Et puis dans les investissements, donc toujours la poursuite du PLU, l'installation du coffret forain, pour permettre donc aux pizzas de pouvoir se brancher directement sans avoir de groupe électrogène qui faisait auparavant de la pollution et du bruit, surtout. Nous avons acquis également la parcelle chemin de la fromagère, c'est pour pouvoir cette année faire le mode doux et relier donc le chemin de Madurand jusque devant la place pour les piétons et les vélos. Donc nous avons acquis cette parcelle en 2023. La numérisation du cimetière, alors ça a été aussi un gros poste qui a été fait en 2023 parce que c'est quelque chose qui n'existait pas sur la commune pour pouvoir remettre à jour toutes les concessions de notre cimetière parce qu'il reste, il nous restait peu d'emplacements au cimetière et on s'est dit on a du foncier pour pouvoir agrandir le cimetière mais est-ce que toutes les tombes sont bien attribuées, etc. Pour ce faire, eh bien, il fallait donc faire toute une opération de numérisation. Et c'est donc un cabinet de géomètres qui nous a fait toute cette numérisation. Et on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'emplacements de libres, de tombes à récupérer, de concessions à faire renouveler, de concessions que certaines personnes ne veulent pas renouveler. Donc c'est un gros, gros travail. Et ça a été un investissement qui a été fait sur l'année 2023, mais qui va nous permettre de repartir sur de bonnes bases et surtout de ne pas agrandir le cimetière et de pouvoir accueillir de nouveaux arrivants, si je puis dire, sans agrandir. Nous avons continué également la plantation d'arbres au City Park. Donc les plantations ont été faites en novembre. Il y en aura d'autres qui sont prévues pour novembre 2024. Il y a eu également des travaux de toiture, de fenêtres, volets à l'école. Il y a eu la réfection de la voirie chemin du Madurand, il y a eu l'installation de la boîte à livres, il y a eu l'installation de nos bonhommes fluo, nos piétons. Il y a eu la fin de l'aménagement du city, la station de fitness et les jeux qui ont été terminés. Il y a eu le changement du toboggan à l'école, des bancs à l'école, du matériel informatique puisque le poste accueil mairie qui avait 11 ans eh bien, a rendu l'âme, donc il a fallu le changer. Et puis deux PC portables pour le directeur périscolaire et l'animation au périscolaire. Je précise quand même que ces PC portables étaient du matériel recyclé. Une imprimante et un vidéoprojecteur aussi ont été acquis pour l'école, du mobilier pour la bibliothèque et puis du mobilier pour l'école, chaises, tables et lits, parce que tout s'use et doit se renouveler. Donc ça, c'est pour la partie dépenses, que ce soit aussi bien en fonctionnement et en investissement. Et en recettes, nous avons quand même obtenu des financements, des subventions, le solde des fenêtres et des volets de l'école qui représentaient 70% de la somme. Le city, les aménagements au city représentaient 50% de la somme. Nous avons eu un acompte pour l'aménagement des arbres du city. Nos bonhommes fluo piétons ont été subventionnés à hauteur de 50%, donc on peut dire qu'il y en a un qui était offert. Le fonds concours de la CCMP pour la voirie du chemin du Madurand à hauteur de 50% des dépenses. Le classement donc, de nos archives, c'est un financement à 45%. La caisse d'allocation familiale concernant la mise en place de notre accueil de loisirs pour la somme de 3 200 €. Et nous avons également perçu l'assurance Groupama suite au sinistre pour les réparations des dégâts des eaux à l'école. La taxe d'aménagement, bien sûr, les dotations de l'État et de la CCMP, voilà pour la partie recettes. Donc c'est pour un peu résumer tout ce qui s'est fait l'année 2023. On oublie vite, hein, on voit des choses qui sont faites où on ne sait plus si c'est 2022 ou 2023, mais 2023, il y a quand même eu pas mal de réalisations qui ont été faites et dont découlent forcément ces comptes de gestion et administratifs. Alors Sandra, vous nous rappelez comment ça fonctionne, le compte de gestion par rapport au compte administratif?
Alors le compte de gestion, c'est le compte qui est détenu par le trésorier, donc au trésor public, et le compte administratif, c'est le compte qui est détenu chez nous. Et donc,
Et donc,
à la fin de l'année, ils doivent être en adéquation au centime près. C'est pour s'assurer que ce que nous, on a saisi en comptabilité, après, c'est eux ce qu'ils ont validé en paiement.
Et le suspense,
c'est que c'est bon, nous sommes au centime près en adéquation. Donc, en fonctionnement, on a eu 937 660,69 euros de dépenses, avec 939 440,75 euros de recettes, ce qui nous fait un excédent, donc on a plus de recettes que de dépenses en fonctionnement, de 1780,06. En investissement, on a des dépenses à hauteur de 331 332,69 euros pour 238 695,11 euros de recettes, ce qui explique donc ce que Valérie vous expliquait tout à l'heure, un déficit. Donc là, on est en négatif, on a eu plus de dépenses que de recettes, de moins 92 637,58 euros. Mais voilà, Valérie vous l'a expliqué pourquoi.
Voilà le don, la somme pour le don, hein, j'en ai pas reparlé, mais cette somme est toujours dans les comptes de la mairie.
Voilà. Ça, ce sont les résultats 2023 et qui sont concordants entre le compte de gestion du trésor public et le compte administratif détenu par la commune.
Alors, en premier, la première délibération,
le compte de gestion.
On approuve donc le compte de gestion après avoir répondu à vos questions, s'il y en a.
Quelles sont les principales sources de recettes d'investissement ? Ce qui alimente principalement les deux, trois postes, ou un ou deux postes principaux de recettes d'investissement ?
Les subs, la taxe d'aménagement,
ouais.
La fiscalité, c'est du fonctionnement. En investissement ou
en investissement,
oui, les subs, le FCTVA, qu'on perçoit l'année d'après, les dépenses. Et ça va surtout être ça.
C'est ce qui va en investissement.
Voilà.
Le reste, ça va en fonctionnement.
Ah oui.
Et après, donc la vente portée
et,
par
et
EDF,
les ventes
iront.
Voilà.
En
et les ventes, bien évidemment.
Et les dotations de l'État, c'est du fonctionnement.
Exceptionnel.
Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Mais là, la taxe d'aménagement rapporte beaucoup ces dernières années du fait de toutes les constructions qui a eu lieu dernièrement.
Mais 2024, ça va se calmer.
Et la taxe foncière, les taxes foncières, elles vont à l'investissement ou
non, la taxe foncière, c'est du fonctionnement. La taxe foncière, c'est du fonctionnement. On va en parler après.
D'accord. Oui, pardon.
Je vais donner quelques chiffres après. Est-ce que pour l'approbation de ce compte de gestion, vous avez d'autres questions ?
Non.
Alors, je vais demander votre approbation. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions adoptées. Je vous remercie. Et donc, pour le compte administratif, c'est nous avions donc depuis 2023 donc désigné Vincent, parce que moi, je dois sortir.
C'est ça ? Oui, c'est vous qui avez parlé du compte administratif.
Voilà. Donc, c'est toi le président, donc je sors.
Madame le maire, ne veut pas le compte administratif.
C'est la délibération numéro 2. T'écoutes pas. Hein. Donc il faut qu'on approuve le compte administratif du budget prévisionnel 2023. C'est quoi le tableau, la réalisation du budget primitif 2023, les dépenses.
Non, non, là vous dites c'est ce qui a été présenté.
C'est ce qui a été présenté, voilà. Donc on a juste à dire qui est contre.
Voilà, tout à fait.
Qui est pour, qui s'abstient, pardon. Donc, adopté à l'unanimité.
Et
on peut faire revenir Madame le maire.
C'est le budget principal. Le
compte administratif du budget principal.
Ah, du budget principal.
C'est bon, t'as été président ?
Non, c'est président pour une fois.
Ensuite, donc la délibération numéro 3, eh bien, c'est l'affectation du résultat de ce budget principal tel qu'il vous a été proposé. Donc je rappelle les dépenses en fonctionnement, 937 660 euros pour 939 440 euros de recettes, soit un excédent de 1780 euros. en investissement des dépenses de 331 332 euros pour des recettes de 238 695 euros, soit un déficit d'investissement de moins 92 637 euros. Déficit donc qui s'explique par les recettes EPF non perçues mais prévues donc forcément sur 2024, reportées sur 2024, avec donc un résultat de clôture en fonctionnement selon les chiffres que je viens de vous indiquer. Donc fonctionnement 915 344 000 euros, résultat 1780 euros. Donc un résultat de clôture d'exercice à 917 124 euros avec les reports des années précédentes, c'est ça. En investissement 41 812 euros avec un résultat donc 2023 de moins 92 637 euros, soit un résultat de clôture d'exercice 2023 à moins 50 825 euros. Avec des restes à réaliser, c'est-à-dire des dépenses qui n'ont pas été payées, qui ont été budgétisées en 2023, réalisées en 2023.
Et qui a fallu payer avant le vote du budget 2024.
Voilà. Donc ces dépenses d'investissement s'élèvent à la somme de 6 480 euros et des recettes d'investissement de 11 795 euros. Donc un solde reste à réaliser pour l'année 2023 de 5 315 euros. Ce qui nous amène à avoir un besoin donc, de financement de 45 509,67 euros. L'affectation de résultats de fonctionnement de l'exercice 2023 est répartie comme suit. Déficit d'investissement reporté, moins le déficit d'investissement 50 825 euros. La couverture de besoins de financement par rapport aux recettes d'investissement est de 45 509 euros. L'excédent de fonctionnement reporté par rapport aux recettes de fonctionnement est de 871 615 euros au budget primitif 2024. Ça, ce sont les chiffres qui ont été vus et approuvés par la commission finances du 5 mars 2024. Et c'est donc l'approbation de ce résultat 2023 concernant le budget principal tel que présenté qu'il vous est demandé d'approuver. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Je vais donc demander l'approbation de cette affectation de résultats. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté. Je vous remercie. Passons donc au taux d'imposition 2024. Depuis donc 2020, le taux de taxe d'habitation est figé à la valeur de 2019 jusqu'en 2022, inclus consécutivement à la réforme de la fiscalité directe locale. À partir de 2023, le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale peuvent être à nouveau votés et modulés par les collectivités locales suite à un article 1636B. Les taux appliqués actuellement sur la commune sont les suivants. Taxe foncière sur les propriétés bâties, nous sommes à 27,30%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 58,13%. Taxe d'habitation des résidences secondaires, 13,68%. Par rapport aux autres communes de la CCMP, il vous est proposé cette année de maintenir ces taux pour l'année 2024. D'abord, c'était une promesse de campagne qu'on avait fait de ne pas augmenter les taux. Pour vous donner une idée, on partait de assez haut quand on a été élu, puisqu'en fait, les autres communes de la communauté de communes étaient plus basses que nous. Maintenant, si l'on prend les tableaux, il faut comparer ce qui est comparable, parce que bien évidemment, on n'a pas tous les mêmes populations. Mais pour la commune de Bénon, en taxe foncière sur les propriétés bâties, c'est la taxe qui nous concerne le plus, c'est celle qui rapporte le plus pour la commune. Bénon est à, alors je rappelle, donc TIL 27,30% actuellement, et pour l'année 2024, on ne bouge pas cette taxe. Béno est à 31,47, Miribel est à 39,50, Néron est à 27,35, Saint-Maurice-de-Béno est à 26,02 et tramway 30,45. Donc il y a, c'est Saint-Maurice-de-Bénaud qui a la plus basse taxe foncière. Et puis Néron est-il 27,30 pour nous, 27,35 pour Néron. Et ensuite nous avons tramway à 30,45. Ensuite Bénaud 31,47 et enfin Miribel à 39,50. Il faut quand même savoir que cette année, la taxe foncière va pour tous augmenter, hein, puisque l'État augmente le taux de 3,9%, si je ne m'abuse. Donc tout le monde aura une augmentation de la taxe foncière, mais la part locale, elle, n'augmentera pas. Cette augmentation n'est due qu'à une augmentation de l'État. C'est un message à faire passer si l'année prochaine, les gens disent « ma taxe foncière a augmenté ». Ce n'est pas dû à la commune, puisque la commune, on décide de ne pas augmenter ce taux, puisqu'on l'avait quand même aussi promis, et puis qu'on partait quand même de... les autres ont finalement plus augmenté, nous n'avons pas bougé, et certaines communes ont augmenté plus que d'autres, mais bon, c'est aussi une recette pour pouvoir faire des réalisations et proposer des services, hein. Donc pour vous donner ce que ça représente en somme, parce que c'est ça qui est intéressant, des pourcentages c'est bien, mais ça fait pas tout. Donc la taxe foncière bâtie pour Til en 2023, c'est 402 948 euros. La taxe foncière sur le non-bâti, donc là où nous sommes très hauts dans les pourcentages, là on est les plus hauts, on est à 58,13%. Pourquoi ? C'est historique, hein, je ne sais pas, ça, c'est comme ça depuis très longtemps. Et ça représente 10 987 euros. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires, alors c'est vraiment quelque chose qui est pas très important chez nous, puisque ça représente 8 021 euros pour l'année 2023. Donc tous ces produits représentent une somme de 421 956 euros. Donc voilà la taxe foncière, la partie de ce que ça représente, ce qu'on a perçu en 2023 pour notre commune. Si on se projette sur l'année 2024 par rapport aux nouvelles résidences, etc., on obtiendrait une somme de 454 019 euros. Voilà, ben vous avez peut-être... Non, c'est un tableau qui est à part. Mais bon, non, ils n'ont peut-être pas cette feuille-là. On pourra la mettre dans les annexes avec le compte-rendu. C'est intéressant. Voilà, donc c'était simplement pour vous proposer de maintenir ces taux et puis de cette taxe. C'est ce qu'on avait décidé en COP Finance. Si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez avoir des précisions, eh bien, c'est le moment.
Pour l'information, les communes peuvent augmenter un montant qu'elles souhaitent, ou il y a des, comme l'indice des loyers, par exemple, sur le coefficient.
Non.
Non, c'est complètement libre.
C'est ça. Ben c'est le seul levier que la commune a encore pour pouvoir proposer ou pas, soit une commune peut baisser.
Oui. Là, il peut y avoir un encadrement pour les augmentations.
Non.
Comme le gouvernement l'a fait pour l'encadrement des loyers, par exemple.
Oui, mais non.
L'inflation.
Non.
Ça pourrait,
mais non.
Mais c'est pas le cas.
C'est pas le cas. Mais là encore, donc là, cette année, donc les 3,9% qui vont être mis, c'est l'État, hein, c'est pas nous. Donc c'est bien à faire savoir quand même que nous, les taux ne bougeront pas. C'est un choix, hein. C'était aussi une promesse de campagne. Mais c'est quand même c'est aussi un effort qu'on fait pour pas augmenter ces taux et pas non plus pénaliser trop de personnes, quoi. Mais c'est aussi des services en moins qu'on peut pas toujours délivrer parce qu'on n'a pas non plus, ça représente pas des ça représente une certaine somme très importante bien sûr, mais quand on sait que la moindre voirie sont des prix qui sont très très importants, voilà quoi, c'est vite fait.
Est-ce qu'un dixième de point, on a une notion, enfin, on parlait de 400 000 balles pour les propriétés des bâties, comment un dixième de point, combien ça ferait de plus, si c'est pour la population, c'est vrai qu'on a fait une promesse de façon électorale, on ne peut pas revenir sur nos, quoi que ça dépend, on ne peut pas peut-être revenir si on est pris à la gorge à un moment donné.
Après, c'est un choix. Soit on peut... alors, bien sûr, 1%, ça ne va pas faire grand-chose en volume. Mais après, il faudra peut-être faire de temps en temps 1%. Il faut mieux peut-être faire un petit peu chaque année, ou plutôt que de faire 5 points ou 3 points d'un seul coup. Et là, ça fait pour l'habitant une augmentation qui est importante. Hein. Bon, on l'avait promis, parce qu'à l'époque, on faisait partie quand même des... on avait un pourcentage qui était élevé. Et on s'aperçoit que finalement, ce sont les communes qui nous ont rattrapés, voire dépassés, hein, parce qu'il n'y a que Saint-Maurice-de-Bénaud qui est en dessous à 26,02. Après, c'est noué. Après, Néron-Til, 27,30, 27,35, ça se tient, hein, c'est pareil. Et même Tramois qui est à 30,45. Hein, donc c'est...
On sait pourquoi ils sont aussi hauts.
Comment?
Est-ce qu'ils ont augmenté, ils augmentent chaque année?
Qui?
Miribel qui est à 30.
Alors Miribel, ça a quand même fait un peu débat, puisque c'est l'année dernière où ils ont fait une grosse augmentation. Alors après, ça appartient à la commune. Hein.
Nous, non, mais c'est pas, juste pour savoir. Ils ont fait des gros investissements. Enfin, apparemment, c'était pour absorber tous ces affaires.
C'est ça. Ben là, c'est pareil. Je pense qu'il n'y avait pas eu non plus d'augmentation depuis longtemps. Mais là, ils ont plutôt choisi d'augmenter d'une manière importante. Et ce qui a fait débat, hein, dans le... à Miribel, hein. Mais là, ils ont plutôt choisi de faire une grosse augmentation à un moment. Voilà, c'était leur choix. Alors pourquoi donc au niveau de la taxe foncière des propriétés non bâties, on est à 58,13? Ça, je ne saurais vous le dire, par rapport aux autres qui sont toutes à des proportions inférieures. Et pour nous, c'est un produit qui rapporte 10 987 euros. Mais je ne sais pas pourquoi ces taux sont aussi importants. Comment?
Et si on diminuait celle-là et qu'on augmentait l'autre, on ferait plus de recettes.
Ben oui.
Oui, mais enfin.
Non, mais ce sera peut-être à réfléchir dans les années. À ce
que c'est... Ah, parce que oui, mais ça, 27,30%, c'est sur quoi? C'est quoi quel chiffre de départ? C'est quoi?
C'est une base qui est.
C'est les impôts qui.
Comment?
Oui, c'est un taux. Mais il n'y a pas que le taux communal.
Il n'y a pas que le taux communal.
Non, d'accord, mais quand tu dis 27,30, tu as un chiffre au départ. Tu dis, mais...
Bah, c'est la valeur, la valeur foncière. De l'habitation. C'est ce qu'on fait en CCID. En affectant des codes aux propriétés, ça donne des critères qui établissent une base de taux. Un montant de taux, et ce montant, cette taxe vient s'appliquer sur ce barème-là. Quand tu regardes ta feuille d'imposition, il y a une base. Et ce taux vient s'appliquer sur cette base. C'est pour ça que certaines communes revoient toutes les bases de des propriétés dans leur commune, parce qu'on peut aussi changer cette base. Enfin, changer. On ne peut pas le faire. On peut proposer ça au centre des impôts. C'est différent. C'est pour ça que généralement, les communes modifient leur taux plutôt que la base. Parce que la base, il faut l'accord des impôts. C'est quand même différent.
Parce que c'est les seules recettes qu'on fait.
Alors, ce n'est pas nos seules recettes, puisque ce qu'on disait, il y a la taxe d'aménagement, ouais. Il y a les subventions, il y a les dotations de l'État, il y a la dotation de la communauté de communes, il y a les pylônes électriques, il y a différentes recettes, mais celle sur lequel, parce que plus de 400 000 euros, c'est quand même une très grosse recette pour la commune. Hein.
Non, mais justement, c'est pour ça du budget.
C'est ça.
Et est-ce qu'on a beaucoup de résidences secondaires?
Alors non, justement, puisque taxe d'habitation résidence secondaire, ça représente en 2023 8021 euros.
Il y en a deux, Thiel, non?
Je ne sais pas, il faudrait demander aux personnes qui ont fait le recensement.
Ah bah oui,
parce que...
Il n'y a pas beaucoup.
Il y en a très peu, hein. Je pense que c'est... Avant, il y en avait, je pense, beaucoup plus à Thiel, parce qu'il y avait déjà beaucoup de résidences sur la rue du Canal qui étaient des résidences secondaires.
Puis c'est pas bien de déclarer en résidence secondaire, parce que tu payes de...
Ah ben là, tu payes de la taxe
d'habitation.
Ça, c'est la taxe d'habitation.
C'est pour ça qu'il y en a moins, maintenant, qui déclarent une maison secondaire. Aussi.
Voilà, ça, ça représente pas énormément, hein. 8021 euros, c'est pas une grosse...
Pour ça.
Une grosse recette. qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais soumettre cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Les abstentions adoptées, je vous remercie. Donc, nous maintenons nos taux d'imposition pour l'année 2024. Ensuite, la délibération numéro 5, le vote du budget principal 2024. Alors, pour rappeler, il y aura toujours au niveau de l'école, toujours un peu de travaux. Il y en a déjà eu, puisqu'il y a eu une chaudière qui a eu la bonne idée de rendre l'âme. La poursuite du remplacement du mobilier, la poursuite de l'ALSH, l'accueil de loisirs sans hébergement, le matin et le soir sur le temps périscolaire, et à partir du septembre, le centre de loisirs qui va ouvrir les mercredis, à partir du mois de septembre 2024, ça c'est au niveau de l'école. La vie du village, toujours la poursuite de la convention avec Bénaud pour la police municipale, de la convention avec la crèche Nido & Co concernant les berceaux que nous avons à la crèche Nido & Co qui est située à Bénaud. Toujours la poursuite du classement des archives communales, bien qu'on ait obtenu une subvention. L'acquisition de deux nouveaux colombariums au cimetière. Alors là, nos colombariums étaient complets. Et donc, le colombarium, on en avait un, oui, c'est vrai, il était complet, et donc là, ils ont fini la dalle pour les deux dalles. Puisqu'on met deux colombariums, et donc les dalles sont terminées, je pense qu'ils vont bientôt les poser. Donc il y aura deux nouveaux colombariums au cimetière. Nous avons acquis aussi un tracteur broyeur au service technique, alors qui devait arriver au mois de mars et qui normalement va arriver mardi, si tout va bien.
Il manque les bonnes roues.
Il manque les bonnes roues. L'installation de l'antenne SFR, ça, on l'attend aussi. Le permis est en cours d'instruction. Concernant la sécurité, si nous obtenons les subventions nécessaires, on l'avait vu au conseil municipal de février, le remplacement de notre système de vidéoprotection. Actuellement, nous avons 7 caméras. Et le projet en prévoit 3 nouvelles en plus. Urbanisme, toujours, et voirie, toujours la poursuite de la révision de notre PLU. Le conventionnement avec le SUEA pour changement des luminaires, cette année, ça s'est fait en 2024, mais c'était ce qui était prévu en 2023. Donc là, il nous reste une tranche à finir pour pouvoir passer tous les luminaires de la commune en LED. Donc là, maintenant, c'est jusqu'au feu. La rue de l'église, la rue du canal a été fait, et donc là, il faut qu'on reparte du feu jusqu'à la route de Bénaud.
Jusqu'à Bénaud, et puis le
chemin de la Voyeur, le barrio, il n'y en a pas, le chemin de la Fromagère.
Mais il en reste 54.
C'est ça? Voilà. Travaux de voirie, donc on l'a dit tout à l'heure, le chemin de la Braillonne, des gabions à mettre au lotissement des Tuileries, la rue du Stade et la rue de l'Église, la création d'un chemin mode doux reliant le Madurand jusque devant de l'école, la réfection des chemins ruraux, là on a, parce qu'en fait, chaque année, on bouche des trous dans les chemins ruraux, et en fait, plusieurs fois par an, on met des tas de cailloux dans les trous des chemins ruraux, et il faut le refaire très souvent. Donc là, on a fait réaliser toute une étude pour chiffrer tous les chemins ruraux, en fait.
Des chemins ruraux qui mènent en gare des agriculteurs, principalement.
Voilà. Et donc, on va faire ça par phase, c'est ça?
Il y a trois tranches. Il y a une première tranche qui va commencer fin avril, qui part du chemin des Rivons et qui va jusqu'à la Patte d'Or, où ça bifurque pour aller soit près de Champs, soit vers le hangar de Nicolas Zignard. Donc on va faire cette partie-là. Après, on fera une autre partie en 2025 et une autre partie en 2026.
Voilà, donc là, c'est plus boucher les trous.
Là, c'est scarifier, refaire les endroits qui sont vraiment abîmés, il scarifie, il remet du gravier comme il faut, il passe en rouleau, il refait les formes pour que l'eau ne reste pas et qu'on n'ait pas à y revenir.
C'est faire les choses un petit peu plus pérennes, de manière à ce que ça... Alors, ça coûte un petit peu plus au départ, mais ça dure plus longtemps dans le temps. Et surtout, c'est pas à refaire tous les trois mois, quoi. Parce que sinon... Voilà, donc ça, c'est ce qui va commencer cette année. Installation d'une borne électrique dans le parking du cimetière, on en parlera tout à l'heure. La vente des terrains, enfin, portée par l'EPF, cette fois, ça devrait être la bonne. Toujours la poursuite de notre projet de construction bâtiment multimodal. On a eu la réunion la semaine dernière.
C'était mardi,
j'ai l'impression. C'était mardi.
Il y a deux jours,
d'accord. Donc, pour le lancement de l'opération, hein, donc, voilà, on a une prochaine réunion qui est prévue, je ne sais plus, c'est bientôt. Embellissement, poursuite de l'aménagement du parc autour du city, donc les arbustes, des arbustes seront plantés à la fin de l'année et il va y avoir l'installation donc de mobilier urbain. Poursuite plantation dans le village, ça va se faire quand les jardinières là?
Incessamment sous peu.
Incessamment.
Au printemps, enfin, là, au rang du mois, voire début mai ou plus tard, je pense.
D'accord. Toujours au niveau des finances, la poursuite de recherche de subventions pour tous nos différents projets. Mais bon, les subventions, alors on court après et puis on en obtient, mais il y a toujours un reste à charge. Hein, ça ne prend jamais tout en charge. Et puis la mobilisation de fonds de concours de la CCMP, hein, que ce soit pour la voirie ou pour les modes doux. Donc ce budget prévoit un équilibre entre les sections de la manière suivante. Fonctionnement, 1 773 555 €. Section d'investissement, 643 520 euros. Les montants qui étaient votés en 2023, on vous les rappelle, 1 781 094 et en investissement 668 240. Donc là, on est en légère diminution par rapport à 2023. Voilà ce que l'on avait vu aussi avec la commission finance du 5 mars. Donc il vous est proposé d'adopter ce budget primitif 2024 et puis d'autoriser à procéder à des mouvements de crédit. Alors ça, tu peux peut-être rappeler ce que c'est.
En fait, l'année dernière, on a changé de norme comptable. On est passé en M57. Alors, c'est complètement chinois pour vous, je l'entends. Sauf qu'avant, on avait des dépenses imprévues. Une ligne, on pouvait prendre quand il y avait quelque chose qui arrivait immédiatement.
Quelque chose qui casse.
Voilà, etc. En dépenses imprévues. Maintenant, cette ligne n'existe plus, mais il y a la possibilité de prendre à l'intérieur des chapitres à hauteur de 7,5%. Sans en fait de passer de délibération et de conseil municipal extraordinaire. Mais pour ça, il faut le mentionner dans le budget. Voilà. Donc c'est tous les chapitres, à l'exception des dépenses du personnel. Voilà.
Donc, par exemple,
combien de pourcents
Le maximum, c'est 7,5%. Ça s'appelle la fongibilité. Donc, il y a le chapitre 11, c'est le dépense à caractère général. Si un jour on est coincé, il manque. On peut piocher dans un autre chapitre, à l'exception du 012, les dépenses de personnel.
C'est pour pouvoir... En fait, c'est des déplacements,
des mouvements de crédit.
Sans nous demander, là... Nous.
Alors, on est obligé d'en avertir lors du conseil municipal d'après, de dire il y a eu un mouvement de crédit de comme ça.
Mais on n'est pas obligé d'attendre pour pouvoir faire la dépense.
C'est une sécurité, mais en principe, on ne s'en sert pas.
Mais il faut mieux le mentionner, comme ça, s'il y a cette possibilité-là.
Alors, comment ça se fait qu'on ait un budget qui diminue, donc, apparemment, sur 2024 par rapport à 2023, alors qu'on a de plus en plus de charges?
On a augmenté les charges qui dépensent, donc, comme l'eau, l'électricité, mais justement, l'idée, c'est aussi de faire des économies, donc on a réduit certaines dépenses dans d'autres lignes.
D'accord.
Voilà.
On essaye d'être au plus juste,
voilà.
Et surtout pour...
Mais à l'inverse, on a augmenté vraiment les comptes qui explosent, entre guillemets, l'eau, l'électricité, tout ça.
Oui, parce que ça, on n'agit pas, quoi. Comme tout le monde, hein, c'est un peu comme un budget à la maison, où il y a des dépenses qui, maintenant, sont plus importantes que ce que c'était avant, en ce qui concerne l'électricité, le gaz, toutes ces choses-là. Donc, on essaye de grignoter
sur d'autres choses, les fournitures administratives, voilà. Des petites choses comme ça, où on essaye de prendre, de diminuer.
C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de stylo à la mairie,
voilà,
par exemple.
Voilà,
donc,
plus,
voilà, plus voilà. De gomme. Donc, voilà, plus rien.
On fera des dons.
C'est bon.
On fera des dons, s'il vous plaît.
Mais t'enlèves deux points sur chaque ligne. sauf celles qu'on ne peut pas, et après, à la fin, tu...
Oui, voilà, l'idée, c'est quand même...
L'idée, c'est ça. Au lieu de revenir d'Afrique.
Et puis, on compte surtout sur Jean-Marc et
sur
le loto.
Oui, bien sûr.
Ah, mais non, c'est pas aujourd'hui.
Vous pouvez compter.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce budget primitif 2024?
C'est marrant, non? Qui est prévu, qui est visité par les services de l'État.
Comment?
Ce budget primitif, est-ce qu'il est relu et contrôlé par les services de l'État?
Oui, on a...
Trésor public.
On a un...
Un conseiller décideur local qui est venu d'ailleurs en mairie se présenter parce que ça a changé.
Ça a changé, oui.
Et on évoque avec lui, on lui montre le projet et il nous fait part de ses observations éventuelles. Et après, évidemment, à la suite de ça, le budget est voté et est envoyé en préfecture pour un contrôle.
Oui. Mais la personne qui nous conseille, c'est vraiment quelqu'un qui travaille aux impôts. Donc depuis le début du mandat, en fait, hein, c'est une nouveauté qui avait été créée au niveau des DGFIP, d'avoir des conseillers qui étaient dédiés aux collectivités. Et on avait quelqu'un vraiment qui était très bien, avec qui on s'entendait bien, parce qu'il nous parlait un langage accessible, voilà.
Pas technique,
qui n'est pas très parlant pour nous, quoi. Hein, donc, et puis bon, il est allé sur d'autres territoires. Mais là, on a une nouvelle personne, mais qui a l'air très bien aussi, hein, qui est venue se présenter juste pour l'élaboration de notre budget. Et bien sûr qu'il y a un regard si on mettait des sommes complètement...
C'est pas tant les sommes, mais souvent d'affecter sur les mauvaises lignes.
Oui, c'est ça. Mais en fait, on regarde les affectations et les sommes, bien évidemment, pour être en corrélation, quoi. Hein, donc, et après, donc, ça, notre budget, il part dans les services de la préfecture. Donc là, c'est d'autres départements, c'est plus les impôts, où il est aussi regardé.
En termes de timing, le budget est validé quand? À peu près dans le calendrier.
Bah, il faut qu'il
fasse le tour et...
En fait, là, il doit être voté avant le 15 avril.
Ouais.
Chaque année, quand il y a renouvellement du conseil municipal, il peut être voté jusqu'au 30 avril. Et on a 15 jours après pour l'envoyer en préfecture.
D'accord.
Une fois qu'il est voté. Donc nous, là, on le vote ce soir.
On est début mai, quoi.
Et après, ils peuvent nous demander de faire en cours d'année, parce que comme ils ont tous les budgets, quoi qu'il y ait une anomalie, ils peuvent revenir vers nous, comme on va le voir après, et ils vont nous demander de faire une décision modificative ou quelque chose en cours d'année. Voilà, s'ils voient quelque chose de pas conforme.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais donc vous demander votre approbation. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adoptées. Je vous remercie. Et justement, en parlant de retirer une délibération, le dernier conseil municipal, on avait voté la modification du règlement intérieur de la salle des fêtes pour pouvoir proposer un tarif préférentiel au personnel communal. Et nous avons reçu une lettre de la préfecture qui nous demande de retirer notre délibération. Donc là, c'est ce qu'on appelle le contrôle de légalité de la préfecture. Et qui nous dit, donc là, c'est la préfète de l'Ain qui nous écrit en disant que le principe d'égalité de traitement devant le service public implique de traiter de façon similaire des usagers placés dans une situation identique quant à l'accès au service public et un égal traitement dans le fonctionnement de ce service. Pour autant, le principe d'égalité devant le service public admet également que des situations différentes puissent être appréciées et réglées de façon différente. Des tarifs différents peuvent ainsi être pratiqués s'ils sont fondés soit sur le critère de ressources de l'usager, soit sur le critère du lieu de résidence de l'usager, ou bien encore sur un motif d'intérêt général. Le juge administratif distingue trois cas de figure permettant de déroger au principe d'égalité devant le service public, s'il s'agit de la conséquence d'une loi, s'il existe des différences de situation appréciables entre les usagers, c'est-à-dire s'il est possible de distinguer objectivement plusieurs catégories d'usagers, ou s'il existe une justification d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. La Cour administrative d'appel de Paris a déjà été amenée à préciser ce genre, que la qualité d'agent d'une collectivité ne permet pas de bénéficier de tarifs préférentiels, voire de la gratuité, au motif qu'il n'existe aucune nécessité d'intérêt général, ni aucune différence de situation justifiant qu'un traitement particulier soit accordé aux 10 agents. Donc, dans le cas présent, c'était notre cas, hein, puisque la location de la salle des fêtes aux agents communaux ne s'appuie pas sur une disposition législative et ne justifie pas d'une nécessité d'intérêt général ou d'une différence de situation objective. Notre délibération, donc, ne respecte pas le principe d'égalité de traitement devant le service public. Par conséquent, donc, nous devons retirer cette délibération et c'est ce qui nous est proposé ce soir. On n'a pas le choix, hein, le contrôle de la légalité nous dit qu'en fait, on a pris cette délibération alors qu'elle n'est pour les services de l'État pas justifiable.
Voilà. Ça ne sert à rien de faire un règlement intérieur.
Si. Faut pas dire ça. Il n'y a pas de loi qui dise.
On est obligé d'enlever, de toute façon.
Ah oui, on est obligé, on n'a pas le choix.
Et donc, ils nous font délibérer pour quelque chose qu'on est obligé.
La délibération du mois de février, on avait délibéré pour donner la possibilité aux agents communaux, une fois par an, de louer la salle des fêtes à un tarif préférentiel. Cette délibération, elle est partie à la préfecture, au contrôle de légalité, et ça revient en nous disant « c'est pas légal, vous devez retirer votre délibération ». Donc, non seulement on doit retirer la délibération, mais on doit modifier le règlement qui précise que pour les agents communaux, il y avait un tarif préférentiel une fois par an, effectivement. Mais on n'a pas le choix.
Mais donc, du coup, on vote ou on vote pas
contre?
L'annulation du règlement.
Oui, on est obligé de dire oui. Oui, en fait, les services de l'État nous demandent de retirer la délibération qu'on avait, pour laquelle on avait dit oui en février. Puisqu'elle, pour l'État, elle n'est pas légale. On n'a pas le droit de l'appliquer.
Donc on doit dire oui, on est d'accord de retirer.
Voilà, donc là on dit oui pour retirer la délibération qui accepte la modification du règlement intérieur de salle municipale de Tille au profit du personnel communal pour la location de la salle des fêtes à prix réduit dans la limite d'une fois par an. Voilà.
Donc après, c'est à nous de réfléchir, de savoir comment on pourrait faire autrement pour
On
peut pas. Non,
on
peut pas.
On peut pas. On a essayé, hein, c'est pas... Voilà, mais on peut pas. Donc il faudra leur dire. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions?
La réunion a été courte.
Bien, et bien je vais soumettre cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre?
Pardon. Ça leur avait été communiqué cette.
Oui.
Il faut rétro-pédaler, quoi.
En fait, ils n'en avaient pas encore profité parce que c'était en février, donc c'était. Oui.
Donc on s'abstient?
Non, ça ne sert à rien.
Bon, alors, oui, mais...
je vous le dis, hein.
Ok, allez-y.
C'est... Oui.
Donc c'est un peu moche. Je comprends que.
C'est pas légal. On serait illégal d'appliquer ce.
Il n'y a pas de débat.
Non, il n'y a pas de débat. Voilà. On avait trouvé, parce qu'on disait qu'on n'a pas, nous, la possibilité de donner à nos agents communaux plein d'avantages, comme ça peut être dans d'autres communes, etc. Quoi. Donc c'était une manière, sans que ça soit un coût. Et pour les habitants et pour la commune, de leur. Mais c'est pas légal, c'est pas légal. Hein.
À l'unanimité, il n'y avait pas de débat là-dessus.
Voilà.
On peut oublier de leur envoyer une facture.
Oui, c'est ça.
Ce qui est logique, c'est de voter. Parce si on te donne le droit de vote, on pourrait tous s'abstenir. Ce qui est complètement illogique dans ça, c'est de nous demander notre avis. C'est illégal, vous la retirez, point barre, il n'y a pas besoin de voter.
C'est
quelque chose qui est contre le truc, vous êtes hors la loi, vous ne votez pas. Si on nous demande de voter, on peut très bien.
On nous demande de retirer la délibération.
C'est pour retirer la
délibération. Il vous appartient d'inviter le conseil municipal à retirer la délibération citée en référence dans un délai de 2 mois à compter de la réception du présent courrier. Donc, oui. On doit retirer cette délibération.
Mais tu peux juste nous informer qu'on est obligé de la retirer sans avoir à voter forcément.
Alors on ne vote pas? De toute façon, qu'on vote ou pas, on écrit qu'on retire la délibération. Comment ? Symboliquement, je te l'accorde, c'est pas pareil. Mais je ne sais pas.
Non, mais je pense qu'il faut la présenter au conseil.
Alors, on vous la présente et on ne vote pas.
Voilà.
On est d'accord. Voilà. Comme ça, au moins, ça veut dire qu'on n'a pas le choix.
Voilà. Oui. Bah, ils donnent pas le choix.
Comment ?
Ils donnent pas le choix.
Ah non, non, non. La délibération suivante. Le SIEA, acte de candidature pour une borne de recharge électrique. Nous avons la possibilité d'acquérir une borne de recharge électrique semi-rapide par le biais du SIEA qui propose dans chaque commune du département. Donc c'est une borne 22-24 kg qui n'est pas une borne, donc c'est une semi-rapide, c'est pas des ultra-rapides comme on a au centre commercial de Claire, mais c'est pas non plus quelque chose comme on a chez soi, c'est quelque chose quand même qui est entre les deux. Le SIEA prend en charge cette dépense. Il y a la maintenance qui est à la charge de la commune. Les frais de maintenance sont estimés à environ 1 700 euros par an. Et généralement, elles sont compensées par les recettes de branchement, hein, puisqu'en fait, un utilisateur, quand il se branche, eh bien, il paye une consommation et un droit au branchement. Et généralement, alors je ne sais pas si ce sera le cas pour nous, hein, mais l'utilisation de la borne appelle donc à un paiement, et que ce paiement, généralement, sert à payer les frais de maintenance du système qui sont évalués à peu près 1 700 euros par mois.
Par an.
Oui, ça ferait beaucoup.
On va la recharger, les
gars. Non, mais c'est pour voir si vous suivez.
Ouais.
Voilà, c'est exprès pour ça. Je précise également que si nous souhaitions une borne rapide, donc là, il y a un surcoût auprès du SIEA qui est de 6 800 euros. Afin de bénéficier donc de cet équipement, il nous convient de faire acte de candidature auprès du SIEA, et donc cette délibération vous est proposée pour permettre de candidater auprès du SIEA pour pouvoir avoir une installation gratuite, si je puis dire, d'une borne de recharge semi-rapide, tout en indiquant qu'il y a des frais de maintenance qui resteront à supporter par la commune. Mais c'est aussi un service qu'on peut donner soit aux habitants, soit plus principalement, je ne sais pas si vous avez des visiteurs qui viennent et qui, pendant le temps de visite, eh bien, veulent charger leur véhicule pour pouvoir faire le voyage-retour. Pourquoi pas ?
Maintenant, c'est pour réparer au cas où elles sont en panne, tout ça, c'est une sorte d'assurance aussi. Hein, c'est pas simplement la consommation... C'est une maintenance,
ils viennent
te le dépanner.
Absolument. Oui, c'est pour tout dysfonctionnement, voilà. et entretien.
Il y a des témoins qui ont demandé la borne. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés et qui sont manifestés ?
Alors non, parce que je pense qu'ils ne le savent pas. Mais je pense que, enfin, moi, si je prends mon exemple, moi, je me charge chez moi. Parce que j'ai la place suffisante pour pouvoir le faire. Mais on peut imaginer, par exemple, pour, je ne sais pas, peut-être le collectif qu'il y a au Clos des Platanes, il n'y a pas de borne de recharge. Si quelqu'un a un véhicule, il n'a pas d'endroit où recharger sa voiture. Et puis je pense que c'est plus pour la personne qui, comme je te dis, qui peut venir en visite chez quelqu'un, qui peut se charger plutôt que de se charger chez la personne. Ça peut, ou quelqu'un de passage aussi.
Elle n'offre pas ses tickets aussi.
Comment ?
C'est pas une obligation ou quelque chose qui est très fortement conseillé par rapport à ton nombre de places de stationnement que tu dois avoir.
Une pour 20 places.
C'est ça.
Une pour 20 places.
C'est ça. Mais il n'y a pas d'intérêt à avoir des bornes lentes, parce que les bornes lentes, c'est là au moins ça permet quand même de pouvoir dépanner et d'avoir une capacité de recharge assez rapide pour quelqu'un qui reste pas longtemps sur le territoire, quoi, ou qui a besoin de... alors s'il y a la borne ultra rapide au centre commercial, hein, mais l'un n'empêche pas l'autre, on va dire. Ça fait des points supplémentaires.
Bien sûr, mais je pense que pour les gens qui avons des véhicules thermiques, on peut recevoir quelqu'un avec un véhicule électrique. Et donc, on n'a pas forcément l'installation.
Alors, moi, chez moi, tu n'as pas besoin... Enfin,
moi, j'ai... parce que tu as déjà une électrique.
Non, mais même, enfin, comment dire, si je viens chez moi, avec, chez toi, avec mon chargeur, je vais me brancher sur une prise de cafetière.
Tu vas charger en 3 jours.
Voilà, mais par contre, c'est lent à charger. Voilà, moi, quand je rentre chez moi, je la branche.
Tu charges la voiture comme ça, en une nuit, elle est chargée, non?
Oui, une nuit, mais tu vois, si tu as besoin de 3 heures,
tu ne charges pas du tout. Faut que Valérie couche chez Christian.
Ah ben, c'est parce qu'il faut que tu aies besoin de charger rapide, tu vas à Leclerc. Hein.
Voilà, c'est ça. Mais semi-rapide, c'est jamais bien.
Mais semi-rapide, c'est pas mal. Ça, ça permet d'avoir... Oui.
Et les recettes, qui arrivent sur cette borne-là, l'intégralité...
Alors, une partie des recettes reviennent à la commune.
Une partie.
Oui. Bah oui, parce qu'il y a l'opérateur. Il y a l'opérateur qui, lui, c'est pas la commune qui va gérer le principe de fonctionnement de la borne. C'est un opérateur qui va... Donc, il y a une petite partie qui va à l'opérateur, et puis le reste qui est dédié à la commune. La répartition encore des montants n'est pas faite par le SIEA. Là, j'ai pas les éléments pour te dire, bah, je sais pas moi, sur X prix du kilo, il y a tant de pour la commune et tant pour l'opérateur. Ça, je sais pas encore. C'est pas défini.
Parce qu'en fait, l'idéal, ce serait quand même que ça rembourse les 1700 euros.
L'objectif, il est là. S'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent se charger, c'est l'objectif. C'est l'objectif.
Oui, parce qu'à terme, il y a des communes qui ont beaucoup de places de stationnement et la maintenance des bornes, ça leur coûte très très cher. On a parlé avec M. Ramel, par exemple, à Meximio, qui s'interroge parce que quand on a 20 ou 30, c'est des lentes, c'est des semi-lentes. Si c'est une rapide, c'est le double. Donc quand on a 20 ou 30, sur ton budget, ça te fait 30 000 euros rien que pour la maintenance.
Et c'est quoi ces opérations de maintenance?
C'est le problème de l'électrique aussi, hein, des limites de l'électrique.
Ça peut être une panne, c'est maintenance entretien, quoi, dépannage. C'est comme tout appareil, comme une chaudière où t'as la maintenance qui est tous les ans, t'as ta facture de. Ah bah heureusement, heureusement. Mais là, c'est en rapport avec l'appareillage que ça représente. C'est une technicité particulière parce que c'est des courants particuliers. Et donc, il faut des opérateurs qui soient habilités à manipuler ce type de courant aussi. Hein, parce que
si tu as des gens qui se
mettent de la maintenance, pas mettre les doigts dans la prise,
il faut les payer, les gens qui viennent faire la maintenance. Il y a du personnel.
Il y a l'usage de personnes lambda, c'est pas du parti. Enfin, oui. C'est pas chez eux. Donc, à partir du moment où c'est pas chez eux, il y a quand même.
Une norme de sécurité.
Oui, surtout, mais c'est qu'ils en prennent beaucoup moins soin que si c'était à eux.
Oui.
Donc,
à 1,50€ la charge, hein, combien de...
Ça dépend.
C'est à peu près. Bah, 1700, il faut 1000, donc ça fait à peu près 1000 gars qui viennent se servir.
Ouais, mais il faudra faire de la pub. Hein.
Non, 1000 à diviser par...
Et madame, voilà. Bah,
oui.
Il
faudra qu'on fasse la pub parce que...
C'est un service aussi.
Mais c'est aussi un service qu'on...
Et après, les bornes, elles sont enregistrées sur des applis. Il y en a qui vont dire, oula, il y en a une qui a-t-il, elle est dispo.
Moi, par exemple, à Bénaud, sur ma voiture, je sais combien il y a de bornes de disponibles. Et sur toutes les applis, que ce soit ChargeMap, que ce soit... en fait, quand tu as l'application, tu sais où sont les bornes, ton GPS t'y amène. Et tu sais les bornes qui sont disponibles, le nombre qui est disponible.
Dispo, en fonctionnement, en panne.
C'est ça. Oui, c'est fait en temps réel, quoi, en fait. Hein. Donc, mais c'est aussi un service qu'on rend aux gens, quoi. Hein, que ce soit donc plus principalement, je pense, des visiteurs. Plutôt que des... pourquoi pas des Tulois, hein, mais je...
Oui, mais c'est quelqu'un qui vient du Sud, par exemple, qui vient rendre visite.
Oui, non, mais ou du nord.
Avec une électrique, il faut venir avec une Tesla, hein, sans faire de pub, parce qu'il n'y a aucune électrique qui te fait Lille, Lyon.
Même la mienne, hein, elle ne fait pas Lille, Lyon. Hein.
Bah, pas loin, tu dois faire deux fois, quoi. Il faut six fois, moi, avec la
mienne. Ouais, ça t'oblige à faire la
Parce que quand ils te le vendent, ils disent que ça fait une opération blanche, tu ne gagnes pas de sous. Les 1700 à peu près, une heure près qu'ils nous disaient.
Alors, on sait le coût de la borne, ce ouais. que ça coûte au SUEA, ça a un certain coût hein, quand même hein, pour sûr. Eux. Donc, ils financent l'intégralité. La seule chose donc, qui reste à charge, c'est la maintenance.
Ouais.
Donc, c'est écrit avant, quoi. On le sait avant, mais c'est eux qui prennent en charge toute l'opération d'installation. Il n'y a pas nous de branchement à faire, de choses à prévoir. C'est le SUEA qui se charge.
Nous, on a déjà amené le courant.
Mais on a déjà, voilà, on est pré-câblé.
Pré-branché.
Et on disait qu'il y avait une obligation pour la collectivité de fournir une borne de parking. On a combien de places actives ?
Là-bas, il y en a plus. Il y en a plus.
Donc, plus tard, on va nous obliger à en mettre une deuxième, un de ces jours.
Alors, pour l'instant, c'est des recommandations. Hein. C'est pas des obligations. Et puis, on va essayer. Après, c'est toujours le même phénomène. En mettre de partout si elles ne servent pas, ou d'en c'est mettre plusieurs et si elles ne servent pas. Après, c'est des coûts, c'est ce que expliquait Vincent, c'est des coûts pour la commune, pour des choses qui ne servent pas. Donc, on va essayer déjà de voir avec une ce que ça donne.
Bien sûr.
Je pense que tester avec une qui nous sera installée. Et puis, parce que je pense, autant tu as des endroits où il n'y en a pas beaucoup, mais nous, avec le Leclerc, où il y a les bornes rapides, et puis il y en a principalement aussi un peu partout. Je ne suis pas sûre que si on en met par rapport à nos places de parking le nombre obligatoire, on les remplisse souvent. Quoi. C'est ça le problème. Hein. Il ne faut pas non plus créer des choses, des charges après pour la commune en fonctionnement qui sont inutiles. Une, c'est bien. Je pense que c'est bien de le faire et de le mettre à disposition de tous. Et puis après, on voit ce que ça donne, quoi.
Après, si c'est plein tout le temps, effectivement... Ouais. Après, il existe aussi les bornes doubles. Tu sais,
oui.
La borne qui elle-même, elle est après, ça dépend aussi comment évolue l'évolution.
C'est bien important de l'avoir.
Il y a des endroits, si vraiment tout le monde passe à l'électrique, il y a des endroits à Londres, il va falloir que les gens y tirent à l'ombre de leur appartement.
Tu la branches ?
Tout à fait.
Non, mais en plus, il y a aussi le fait qu'il faut... Parce que c'est bien, l'électrique, mais il faut amener la puissance. Parce qu'il faut qu'en sortie, eh bien, il y ait assez suffisamment des câbles qui puissent amener la puissance nécessaire pour recharger des voitures en semi-rapide. Il faut déjà du câble qui est un petit peu, qui parle un peu quand même. Hein, donc voilà. Si après il faut refaire tirer des lignes électriques qui partent de ne sais où pour alimenter là, il faut mieux aller jusqu'au Leclerc. Quoi, hein,
Je pense que la question de Catherine, c'était plutôt sur l'obligation qu'on risquait dans les années à venir d'avoir des bornes.
Oui, mais pour l'instant, je pense que même si on ne va pas répondre tout de suite à l'obligation par rapport au nombre de places, je pense qu'on fait déjà l'effort de faire pour une et puis voir ce que ça donne déjà. Parce qu'après, c'est toujours pareil. Hein, si ça crée des frais de fonctionnement pour la commune, c'est aussi une charge supplémentaire qui revient, elle, toutes les années. Et si ça ne sert à rien, franchement, c'est un peu ridicule. Quoi. Donc,
là, on a un contrat de combien ? Que c'est 1 700 € tous les ans pour une installation, mais il faut la garder minimum 4 ans, 5 ans.
Il y a pour l'instant, c'est vraiment le lancement de...
Parce qu'imaginons qu'il y a 4 chargements par an, c'est un énorme coût pour la commune pour rien, donc on pourrait l'enlever si nécessaire, j'y crois pas. Mais...
Ou alors après, on peut la débrancher quelque part. Si on la débranche, on l'entretient plus. Mais enfin, c'est un peu dommage, quoi.
Non, mais c'est...
Donc, je sais pas. On verra. Non. Pour l'instant, c'est pas encore déterminé.
Il y a quelques voitures électriques là-dessus.
Non, mais oui, il y en a, oui.
Tu disais, on sait combien ça coûte.
Alors, j'ai pas le tableau là.
Ça doit avoir un certain coût.
Oui, c'est un coût. J'ai pas le tableau là.
Ça dépend. Hein. Ça coûte.
J'ai pas amené. Non.
Une semi-rapide.
Non, mais là c'est beaucoup plus. Hein.
Oui, mais ça reste.
Oui, mais ça c'est
pour une collectivité.
Voilà, c'est à destination. Le,
mais
la boîte
pour un particulier, 1 700 € une semi-rapide.
Oui, mais pour quelqu'un de particulier, quoi. Pas quelqu'un.
Oui, voilà. Non, mais j'entends.
T'as plus le péage.
Fais un rond-point dans ton jardin, ça coûtera beaucoup moins cher que sur une voirie. Et pourtant, c'est le même.
Oui, mais je ne vais pas faire un rond-point dans mon jardin. J'ai pas. J'ai pas. Le SEA nous l'a communiqué, mais je n'ai pas amené le tableau avec moi. Désolée.
J'ai une dernière question.
Oui.
Là, c'est on délibère pour autoriser à candidater.
Oui.
Ou c'est si te disent oui, enfin si nous disent oui, pardon, ça engage directement à l'acquisition ou pas?
Ah non, c'est encore. Après, il faut se mettre d'accord déjà sur l'emplacement. Là, c'est vraiment faire acte de candidature. On dit qu'on est d'accord pour candidater pour cette installation.
Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est si on dit qu'on est d'accord pour candidater, est-ce que ça nous engage?
Non.
À tout ce qui va découler, et notamment, par exemple, on ne sait pas ce que tu disais, hein, la répartition qui va revenir à la commune.
Non. Après, il y a le conventionnement.
C'est ça,
après, il y aura la convention qui nous liera au SIEA et après, on reviendra devant le conseil pour, à ce moment-là, conventionner. Et si, par exemple, je dis n'importe quoi, la convention, elle dit ben, c'est un centime reversé à la commune donc, et que là, on n'est pas d'accord, ben, du coup, on n'installera pas. Là, c'est vraiment pour faire acte de candidature. Toutes les et le SIEA en est au début de la procédure puisqu'elle a encore pas retenu l'opérateur. Donc après, il y aura une convention entre nous et le SIEA pour procéder à l'installation. Là, c'est l'acte de candidature. Après, ils vont nous proposer déjà l'emplacement parce que ils ont dans toutes les communes, ils ont prédisposé les emplacements. Alors nous, on suppose que ce sera au parking du cimetière parce que c'est déjà.
Bah, il s'est déjà acté par SIEA, ils ont réservé une place.
Mais il faut qu'on soit d'accord avec ça, donc après on reviendra pour la convention. Là, c'est vraiment l'acte de candidature. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Oui. Non?
Si.
Oui. Et donc, je soumets cette autorisation à candidater à votre vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Les abstentions adoptées, je vous remercie. Voirie, rétrocession, banque terrain, lotissement des Tuileries. Vincent, tu pourrais peut-être nous en parler, nous présenter.
C'est le bout de terrain qui est devant les maisons le petit bout de terrain qui avait été négocié à l'époque avec l'ancienne municipalité qui devait être recédé à la commune. Après les travaux. Donc les locataires nous avaient. Le lotissement nous avait demandé si on était toujours acquéreur. Donc on en a discuté en commission voirie. On a décidé de garder ce bout de terrain pour des futurs aménagements si on a besoin d'élargir les trottoirs, de refaire un bout de RD, de faire du stationnement. Donc il est cédé à titre gratuit. Donc voilà. On a juste les frais du notaire à payer.
Donc ça fait 294 mètres carrés. Donc c'est la partie en herbe là devant le.
Les deux maisons qui sont juste après l'île.
C'est ça.
Il y a des gens qui se gardent des fois.
Oui, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'herbe.
Donc là on va aménager.
Là on va mettre des gabions le long pour sécuriser et pour éviter que tout le monde monte sur le trottoir et que les gens ils puissent quand même marcher en poussette. Comme il faut.
En sécurité.
Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens du lotissement des Tuileries qui
viennent à l'école
principalement tous d'ailleurs.
Oui. Et puis après le futur lotissement de comment il s'appelle du Nautonier. Là aussi ils viendront par là parce qu'il y a une liaison qui est faite. Donc c'est intéressant de garder ce petit bout de chemin.
Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Pas de questions? Je soumets cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adoptées. Je vous remercie. Ensuite, la délibération suivante, c'est remboursement de frais de levée d'hypothèque avec la SARL, la Forge, chemin de la Braillonne. Donc nous avons, le conseil municipal, la séance du 15 février a autorisé l'acquisition, donc c'est les 25 mètres carrés qui sont chemin de la Braillonne pour pouvoir élargir l'entrée du chemin permettre aux véhicules lourds de manœuvrer correctement, éboueurs, pompiers, etc. Et surtout faciliter les habitants du lotissement de la ferme de Lisette d'accéder à leur propriété. Nous sommes en attente de la signature de l'acte chez le notaire qui va nous permettre de faire ces travaux. Je vous rappelle que tous les tous les devis, etc., ont été établis. Mais nous avons entre-temps reçu un mail de la SARL Laforge nous indiquant qu'elle a dû procéder à une levée d'hypothèque partielle pour pouvoir procéder à cette cession. Cette levée a un coût de 150 euros et la SARL Laforge sollicite la commune pour la prise en charge de ces frais. C'est pour ça qu'il est proposé au conseil municipal de valider le remboursement des frais de 150 euros engagés par la SARL Laforge. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations sur cette délibération? Non. Je vais donc soumettre un vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté. Je vous remercie. Et donc, justement, les deux délibérations suivantes, sollicitation fonds concours, aménagement de voirie, tu nous en dis un peu plus, Vincent, sur ces...
Le premier, c'est sur la réfection du chemin de la Brayonne. Donc, la CCMP, depuis l'année dernière, demander une subvention en hauteur de 50% sur tous les aménagements de voirie. Avant, ça existait toujours sous compétence avant, mais c'était que pour les aménagements sur route départementale et les aménagements de sécurité. Donc ça a été modifié l'année dernière. Donc là, on va solliciter la communauté de communes pour récupérer 50% du montant.
Et tu nous dis ce qui va être fait sur le chemin de la Brayonne?
Sur le chemin de la Brayonne, et bien le début du chemin de la Brayonne jusqu'au lotissement clos de Lisette.
La ferme de Lisette?
La ferme de Lisette, ça va être un enrobé, plus du bicouche. Donc ça va être tout décaissé, fait propre, pour élargir le chemin et que les deux véhicules puissent se croiser comme il faut. Et après le lotissement jusqu'aux dernières maisons, c'est-à-dire les maisons de M. Abdelkader, je crois. Là, ça va être un bicouche qui va être remis propre. Là, pour le moment, c'est un chemin en terre. Donc, ça va être fait comme il faut. Et sur le côté, il y aura un marquage au sol, au même niveau que la route. Il n'y aura pas de trottoirs qui seront faits pour permettre que les piétons puissent circuler comme il faut. Voilà. Et l'entrée du chemin sera aussi refaite, retravaillée. Là, d'ailleurs, il y a un camion qui devait livrer certainement la dernière maison qui a couché deux bordures, j'ai vu. Donc il y aura des bordures basses qui vont être mises pour que les camions puissent tourner plus facilement et que surtout les camions poubelles puissent rentrer pour ramasser les poubelles et éviter qu'elles traînent sur les trottoirs et qu'elles gênent les piétons.
Oui, donc voilà. les poubelles de chemin de la Brayonne ne seront plus déposées rue de la mairie, mais elles seront toutes regroupées au niveau du lotissement de la ferme de Lisette. Comme ça, le camion poubelle rentrera dans le chemin de la Brayonne, prendra les poubelles à cet endroit-là et repartira. Ce qui fait que les poubelles du chemin ne stationneront plus sur la rue de la mairie, ce qui est quand même mieux, parce que comme il y a plus d'habitants avec le lotissement de la ferme de Lisette, les poubelles, surtout rue de la mairie, à l'endroit du feu, où le trottoir était vraiment tout petit, ça risquait de faire.
Quand il y a du vent, les poubelles, elles sont ramassées de trop, parce qu'elles sont mieux de la route. Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'il y a des largeurs obligatoires pour la voirie pour pouvoir faire un marquage au sol?
Pas sur la voirie communale.
Non, et puis là, pour faire un marquage au sol au milieu, ça c'est sur les routes départementales. Voilà, et par exemple, quand ils ont refait le chemin de Bénaud, le département n'a pas voulu faire le marquage central parce qu'il n'y a pas la largeur.
Oui, voilà. C'est pour ça que je posais la question, savoir si pour les routes communales, c'était gavé aussi. Hein.
Non. On peut faire, on comme on a fait...
Comme la rue d'église, hein.
Ouais.
La rue
d'église, il n'y a pas de...
On peut voir 5 mètres de large. Ouais. Sur une route départementale, c'est 5 mètres 50 de largeur pour qu'ils puissent séparer la route en deux.
5 mètres 50.
Et on les a pas...
Puis là, de toute façon, des contraintes aussi, bien qu'on ait élargi le chemin, on ne peut pas non plus tomber les maisons pour faire la marche.
Mais au moins, le camion poubelle va rentrer, les pompiers...
Il y a surtout deux voitures qui pourront se croiser la sortie du feu.
Voilà.
Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté, chemin du Besson. Donc, quand il y a une voiture qui est au feu, l'autre voiture qui peut, elle peut pas rentrer ou peut pas sortir. Donc, le chemin n'est pas assez large. Donc, souvent, ça pose des problèmes. Voilà.
Donc, il y a aussi une demande pour la rue de l'église.
Pour la rue, bah, les, et du stade. Les autres aménagements qui sont faits, rue de l'église, c'est la reprise à un endroit devant le lotissement des Chevalières. Il y a toujours de l'eau qui stagne. Donc, ils vont refaire une grille et se raccorder au puits perdu, qui est un peu plus loin. Et donc ça, c'est aussi l'entreprise Eiffage, c'est des travaux de voirie, donc ça rentre aussi dans cette fameuse compétence. Et rue du Stade, il y a des, où il y avait des chicanes, pareil, ça a creusé au bord, il y a des gros trous. Donc là, ils vont remettre de l'enrobé propre pour faire les deux chicanes comme il faut. Et
alors,
rue de l'Église, les trous, il y en a qui sont dus à, qui sont pas bouchés par les travaux métro. Oui. Donc il faudra qu'on rappelle, parce que ça commence à faire un moment que certains... Et les autres, elles seront bouchées par les employés communaux, en attendant de refaire un jour la rue de l'Église, si on augmente les impôts de 50%.
Parce que là, il y a quand même des sacrés tranchées, hein, ouais, sur la rue de l'Église, là. Ils ont fait une traversée.
Et la rue du Stade, donc, c'est des travaux qui sont, qu'on refait de manière temporaire, puisque la rue du Stade, ça fera partie de la troisième tranche, de la deuxième tranche, pardon, de l'assainissement collectif, et que l'assainissement collectif qui est réalisé, puisque c'est une compétence communauté de communes maintenant, les études vont être faites en 2024. Donc on a bon espoir que la tranche 2, enfin la tranche 3 plutôt, de l'assainissement collectif commence en 2025. Et donc elle commencera, puisque c'est la rue du Stade jusque lotissement des Verchères. Qui est la tranche 3 de l'assainissement collectif. Donc ça, c'est sûr, on a obtenu de la communauté de communes que les études, toutes les études pour réaliser cette tranche 3 soient faites sur 2024 pour après enclencher les travaux en 2025. Voilà, donc c'est pour ça que c'est des travaux sur la rue du Stade qui sont...
La réfection totale de chaussée, hein.
Voilà, c'est des travaux temporaires, parce qu'on ne va pas faire des travaux définitifs, à savoir que pour passer l'assainissement collectif, il faut tout casser. Hein, donc, et puis là, à ce moment-là, ça fera profiler la rue de manière pérenne, avec des vrais puits perdus et des choses
C'est des travaux qu'il faudra certainement prévoir sur des budgets 2026 ou 2027.
C'est ça.
Une fois que l'assainissement sera passé, pas faire comme la rue de l'Église où ça a été refait à l'identique. Et du coup, on voit qu'en effet, il n'y a rien qui tient. Parce que c'est du bicouche, et le bicouche, le nombre de voitures qui passent, ça ne tient pas. Donc, voilà.
Plus les camions qui font les travaux qui passent dessus.
En plus, voilà, avec tous les travaux qu'il y a eu. Bah, rue du Stade, les travaux, ça n'a pas rangé non plus la rue. Hein.
Oh, si, non, mais...
Voilà, donc l'objectif de cette délibération, c'est de solliciter donc auprès de la CCMP ce fonds de concours concernant ces aménagements de voirie qui nous permettrait d'avoir donc un financement à hauteur de 50%, soit 28 194 euros. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, je soumets donc cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions adoptées. Je vous remercie. Toujours dans le même ordre, sollicitation de fonds de concours, aménagement mode doux. En fait, là, on vous retrace la création de ce fonds de concours aménagement mode doux par la CCMP. Donc, c'était la séance du 24 octobre 2023, puisqu'il y avait eu une étude réalisée par le cabinet Imergis sur toutes les voiries de la communauté de communes, et avec un espèce de classement avec des points, à savoir si la route était bonne, pas bonne, mauvaise, très mauvaise, etc. Et donc, à la suite de ça, il a été décidé de créer un fonds de concours pour tout ce qui était aménagement mode doux sur les voiries aussi, sur nos voiries communales. Et pour-t-il, l'enveloppe allouée représente un peu plus de 73 000 euros. Donc, c'est pareil, c'est un fonds de concours, c'est 50% de la somme engagée. Et là, donc, il est prévu la création d'un chemin piétonnier. Là aussi, tu peux peut-être nous en dire... Deux mots.
C'est la liaison en fait qui part du chemin du Maguerand, qui passe dans le fameux terrain qu'on a
acquis
récemment et qui vient passer derrière l'école, le long de l'école, qui ressort
devant l'école.
Pour permettre aux gens de, d'éviter de faire tout le tour par la rue du stade et par revenir devant et faire ça. Et ça permet aussi de connecter les deux modes doux.
C'est ça.
Les modes doux entre eux, c'est-à-dire le mode doux de la rue de l'église avec celui-là et avec le Maduron derrière.
Et ça permettra donc, par exemple, au lotissement du Clos des Platanes et tous les lotissements, s'il y a des enfants qui veulent venir par le chemin du Maduron et venir à l'école de manière sécurisée, hein, puisque le chemin est en voie partagée priorité vélo, eh bien de passer derrière l'école et d'arriver devant l'école, ou même pour les gens, après, d'aller à l'épicerie de manière plus...
Sachant qu'en plus, s'il y a les travaux d'assainissement sur la rue du Stade en 2025, ça permettra aussi aux gens de continuer à aller à l'école à pied ou en vélo à la rue du Stade, qui sera certainement fermée pendant un petit peu.
Pour le bâtiment
multimodal.
Ça, il y aura aussi les traces. C'est super important de penser.
Oui, puis ça fait des, ça fait des communications mode doux entre des parties du village qui sont sympas.
Après, on voit que ça marche sur le lotissement des Tuileries quand même. Hein. Le lotissement des Tuileries, je suis impressionné quand je viens le matin. Alors, je viens pas souvent le matin à la mairie. Mais quand on voit le nombre de familles qui viennent à pied du lotissement jusqu'à l'école, voilà, ils prennent pas leur voiture, c'est très bien. Quoi. Le trottoir il est large, c'est sécurisé, voilà, ça marche.
Il y a même des enfants qui viennent tout seuls. Hein,
oui, bah oui. Non, mais qui viennent tout seul.
Donc nous avons fait faire des devis. Le coût des travaux, c'est 14 692 euros. Et donc nous pouvons solliciter un fonds de concours pour la somme, donc 50%, 7 346 euros. Voilà, c'est, est-ce qu'il y a des questions concernant l'aménagement de ce chemin? Donc pareil, un chemin comme ça, c'est en, fait en, c'est
du en
Sobrena. C'est le...
C'est pas goudronné. Voilà.
Comme les chemins qu'on a fait
c'est
aussi.
C'est le même chemin qu'il y a au Postal.
Et donc il y aura des portillons.
Ouais, des tourniquets.
Des tourniquets.
Pour éviter que les scooters ou les trucs rentrent.
Voilà. Des tourniquets qui sont où la poussette peut passer, mais c'est et le vélo, mais
vélo, ouais,
ouais. Mais pas les scooters.
Mais pas les scooters.
Valérie, il y aura un passage derrière l'école là. J'entends regarder là où il y aura le chemin. Il y a un passage qui va rentrer dans l'école. Il y aura deux entrées.
Non.
On peut, c'est interdit. À cause du plan Vigipirate, il est interdit que l'on ait deux entrées pour une école.
Ça ramène devant l'entrée principale de l'école.
Ouais, on ne peut pas avoir deux entrées à l'école.
Oui, je savais. C'est interdit. Mais voilà, je vous posais la question.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je soumets cette délibération à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté. Je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Ou des remarques? Ou des annonces? Ou... Patrice? Véro? Angélique,
Je peux en parler un petit peu du fleurissement.
Ouais. Avec plaisir.
Aménager devant Vival, on va replanter au niveau des massifs. Du coup, le lilas des Indes reste à sa place. Je pense que c'est mieux. Et je veux aussi avec Antonin, donc je pense qu'on va rester là-dessus. Et on va aussi garnir les deux jardinières qu'on a mises devant la mairie et la jardinière qu'il y a vers l'arrêt de bus en face de la mairie. Pour vraiment centrer le fleurissement vraiment au cœur du village. Voilà.
Estelle, les moutons, ça va?
Ça va.
Ils broutent?
Ils se portent bien.
Damaris?
Non, même de particulier.
Communication?
Communication, tout roule.
Tout roule.
On communique bien. Oui. Je remarque quand même que quand Chaynès hier nous a dit bah, c'est bien vous communiquer dans votre commune, donc ça m'a fait plaisir parce que voilà, non, je pense que oui, on communique bien. Après, voilà,
on essaye de faire passer les messages.
Oui.
Babette, l'école, rien de particulier?
Rien de particulier, dire que bon, on est très content que on monte en puissance en quelque sorte et qu'on soit organisé là maintenant.
Pour le mercredi, ça se présente bien ?
Oui, il y a des demandes ? Alors, il y a un sondage, on peut aussi dire.
Un sondage ?
Il y a un sondage qui a été fait avant de se lancer pour quand même savoir les besoins réels, pour ne pas budgétiser n'importe comment. Donc on a fait un sondage auprès de familles, auprès des familles pardon, de l'école. Et donc 30 familles, ce qui est quand même pas mal, c'est à peu près un tiers, est intéressé, ce qui ferait une quarantaine d'enfants. Ce qui correspond aux prospectives qu'on avait fait, aux projections qu'on avait fait. Donc on est dans cette fourchette avec une proposition effectivement de à la demi-journée ou à la journée.
Et pas de repas cette année.
Non,
hein,
c'est
panier bien.
Repas.
Panier repas.
Panier repas, c'est une mission panier, puisque
puisqu'on est en
l'adjudicataire ne permet pas, voilà. Le prestataire, c'est pas dans le contrat actuel.
Voilà. Et que le contrat se renouvelle que l'année prochaine. Voilà.
Et on aurait effectivement une intervenante principale qui est déjà animatrice dans l'école et sans doute un vacataire supplémentaire en plus de ces lignes. Voilà.
Ok. Vincent ?
Juste rajouter, parce que la question a été posée, je crois, sur le site de la mairie, qu'il y a bien un abribus qui va être posé au Clos des Platanes, en face de côté du traité, et qui sera posé quand la région démarre. La dalle a été faite, mais maintenant, il faut que la région, parce qu'on a eu un abribus gratuit de la région, mais ils ont changé de prestataire, donc... normalement, ils doivent voter le nouveau prestataire au mois de mai, donc je pense qu'on l'aura calé pour le mois de septembre, si tout va bien, pour la rentrée. Ouais. Mais on a un abribus qui est gratuit et qui sera installé en face, à côté du trésor.
Oui, un abribus, c'est un peu plus de 6 000 euros hein, quand même. Hein, donc, c'est, même s'il sera aux couleurs de la région, c'est quand même une économie pour nous. Et puis surtout, un service à tous ceux qui attendent le bus à cet endroit-là, il y en a pas mal. Hein.
Surtout avec le temps qu'il a fait en ce moment. Ils sont un peu mouillés, désolé pour eux.
Non, c'est bon.
Michel ?
C'est bon.
Jean-Marc ?
Bon, ben, c'est-à-dire qu'on attend les subventions pour les caméras.
Oui.
On saura ça le 15 ou enfin, le 17 d'avril. Savoir si on a le droit ou déjà. Voilà. On croise les doigts pour avoir cette.
Catherine.
Par rapport au recensement et à la question qui a été posée au tout début, je vous signale qu'il y a 9 résidences secondaires.
Ah, okay. Merci de la réactivité. Donc, 9 résidences secondaires.
Merci.
Nous faire un petit point donc, sur les nids de frelons. Nous expliquer un petit peu aussi comment ça marche.
Alors, effectivement, il y a 3 nids de frelons qui ont été installés. Ils ont été installés, en fait...
Des pièges,
trois pièges. Il y a trois pièges. En fait, on travaille
avec Sandra qui me dit les nids frelons, les nids frelons.
Alors, ce qui se passe, je reprends depuis l'explication depuis le début, c'est que quand il y a des nids de frelons asiatiques qui sont détectés, il faut absolument le signaler sur la plateforme www.frelonsasiatiques.fr. Hein. Ensuite, il y a un groupement qui s'occupe de ça et qui s'occupe aussi de faire détruire les nids qui sont signalés, sauf qu'ils se sont rendus compte que à partir du début octobre, la destruction ne sert plus à rien. Donc, parce que les reines du nid sont parties, grosso modo. Voilà. Et les autres, je pense, les autres frelons, ils vont probablement mourir, je ne sais pas.
Oui, mais ils piquent quand même.
Toujours est-il que...
ils piquent quand même, ceux-là aussi.
Oui, mais l'hiver arrive et ils vont... Je crois qu'ils vont, ils vont quitter le nid déjà et puis ils vont mourir quelque part.
Et en plus, on n'en a pas eu.
Par contre, les reines, elles auront été fécondées et elles vont aller s'enterrer quelque part, pas très loin. Et elles vont ressortir au printemps. Et donc, du coup, les nids que l'on n'a pas détruits, ou qu'on a détruit après le 1er octobre, eh bien, on se dit que les reines sont pas très plantées. Elles sont restées vivantes. Et c'est elles qui vont sortir au printemps pour aller après fonder à nouveau d'autres nids, puisque elles vont pondre, etc. Et il va y avoir un nid, ça peut être 20 000 colons dans la saison. Donc ce qu'on fait, c'est que par rapport à l'endroit où on a repéré le nid, on pose au printemps trois pièges tout autour, dans un périmètre de 10 mètres autour, pour essayer de piéger les reines quand elles vont en sortir. Voilà, c'est ça le pari.
Mais c'est pas des pièges qui sont... On avait parlé, je crois, l'autre jour, il y avait une histoire région, département...
Non, c'est la CCMP qui nous a fourni ces pièges.
Alors, c'est pas la CCMP, enfin, mais c'est par la CCMP.
C'est par le biais de la CCMP.
C'est la CCMP, l'interlocuteur du groupement,
voilà.
Qui s'occupe de ça.
Et donc, on met un produit...
Ah, oh, ben alors, là, on met un appât.
Donc,
à l'intérieur du piège, on met une petite coupelle, c'est un petit récipient plastique, et par-dessus, on met un grillage pour ne pas que les frelons aillent... pour que les insectes qui seront pris aillent se noyer, plus exactement. Que les frelons se noient, ça ne ferait rien, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein d'autres insectes qui risquent d'arriver là-dedans et qu'on ne veut pas tuer.
Oui, donc des abeilles.
Et donc, du coup, on ne veut pas qu'ils se noient. Donc, du coup, on met une grille. Et puis, il y a des petits trous qui font que les insectes d'un peu plus petit diamètre, les abeilles, les guêpes, tout ça, peuvent ressortir. Par contre, le frelon, lui, il ne pourra pas ressortir.
Les moustiques tigres,
Les
moustiques tigres,
ils peuvent le faire sortir.
Et donc, on le laisse pas longtemps, ce piège.
Et donc, on le laisse jusqu'à mi-mai. Parce qu'on estime qu'à partir de mi-mai, les reines, elles sont allées. Elles sont allées fonder leur nid ailleurs.
Et donc, c'est trop tard à nouveau.
Ça ne sert plus à rien.
Exactement. On a deux mois pour agir.
C'est ça. Et au niveau de l'appât, eh bien, c'est bon à savoir, parce que si vous voulez installer un piège chez vous, c'est un apéritif italien, genre Martini.
Vous pouvez venir chez nous.
Ça s'appelle Romanetti.
Romanet.
Parce que c'est moins cher que le Martini, je pense. Mais j'ai goûté, ça a le même goût, presque.
Mais tu as goûté.
T'es allé dans l'appât directement.
Ça, c'est de la confiance confiance.
Prochaine fois, je viendrai poser les pièges. Tu me vois l'apéro à chaque fois. On en a que trois à titre de piège.
Donc c'est ça, c'est un cinquième de Martini ou de Romanetti et 4/5 de
d'eau.
C'est le nouveau cocktail. À la mode. Voilà.
C'est l'appât qui est recommandé. À part ça, il y a possibilité de faire aussi un mélange avec sirop de grenadine, sirop de cassis, de la bière,
la bière brune.
La bière brune. Et puis, sur une petite vidéo là, que m'a fait passer Damaris, c'était même dit que. On peut même mettre un petit peu de vin blanc dedans parce que les abeilles détestent le vin blanc et donc ça fait que les abeilles ne viendront pas. Ça repoussera le
vin. Non, mais très bien cette vidéo TikTok.
Faut pas gâcher. Très
okay. Bien. Merci Catherine.
Voilà.
C'est tout
pour les frelons.
Il y avait d'autres.
Il y a notre questionnaire biodéchets là, qui est encore dans la nature, qui est validé, qui a été validé. Et donc la CCMP s'est occupée de faire
la maquette,
à valider la maquette, ouais. Et puis ils vont faire les tirages. Et les tirages, et du coup, chaque commune va avoir le nombre de tirages qui correspond au nombre de logements. Je crois que j'en ai demandé 480 pour nous. Et donc, il faudra qu'on les mette et qu'on les distribue avec le prochain...
Au fil de tir.
Voilà.
D'accord. OK. Merci. Christian ? Bien, eh bien, je vais clore cette séance du conseil municipal en salle polyvalente le jeudi 4 avril à 22h06. Stopper l'enregistrement. Merci.